Algérie, ben, là, depuis 24 heures, ça semble un petit peu se calmer. Il y a eu des milliers d'arrestations. Il y a une espèce de chasse aux jeunes en ce moment. Ils vont les cueillir le matin chez eux à la maison. Ils sont détenus par milliers, menacés, intimidés. Les familles sont menacées. Et voilà la situation. Il y a une ville à 80 km d'Alger où des émeutiers se sont mis emprisonnés, qui s'appelle Meliana. Ils se sont mis en grève de la faim depuis hier.
D'accord.
Voilà la situation. Sinon, auparavant, ben, y a eu une semaine d'émeutes.
En fait, elles sont parties de quoi, ces émeutes?
C'est un ras-le-bol. Donc, l'histoire des prix de certains produits qui ont augmenté, c'est vraiment le prétexte. Qu'en Algérie, il y a chaque jour une émeute dans une ville ou dans un village. Mmh. Et donc, comme c'est très localisé, ils arrivent à gérer ça et quelquefois même à le cacher. Et puis, inévitablement, à un moment, ça a été l'émeute générale. Ils ne pouvaient plus le cacher. Deuxièmement, pourquoi c'est pas le prix? C'est-à-dire, il faut pas être divin pour comprendre que baisser le prix du pain de 15 dinars à 12 dinars, c'est pas ça qui va faire changer d'avis les jeunes. Les jeunes, depuis la jeunesse algérienne, depuis des années, chaque matin, des jeunes se jettent à la mer pour tenter de rejoindre les côtes européennes, italiennes et espagnoles. Cette année, les statistiques, c'est 5 000 qui ont été interceptés. Vous avez une idée de tous ceux qui sont passés et qui, par définition, sont clandestins, et ceux qui ont péri en mer. Et donc, et ça, apparemment, ça ne dérangeait pas le régime. C'est une absence totale d'espoir, absence de perspective. Ils ne voient pas comment ils pourront avoir une vie à peu près digne dans un pays, dans leur pays. Information, les émeutes ont débuté lundi, la veille, le dimanche, le régime a claironné dans tous les médias gouvernementaux que l'Algérie disposait de 155 milliards de dollars de réserves, placés bien évidemment aux États-Unis dans le trésor américain, et que ces jeunes ne comprennent pas qu'on leur dise tous les jours que leur pays est riche, mais que eux sont pauvres. Donc on se retrouve dans une situation d'un pays riche et d'un peuple pauvre, et à un moment, évidemment, ça éclate. C'était prévisible. C'est parti d'une petite ville à 40 km d'Alger, à l'ouest d'Alger, mais il y en a tous les jours. Hein. Donc à chaque fois qu'il y avait une émeute quelque part, il y avait le risque que ça se propage. Et donc c'est parti de là, il y a eu une répression qui sort un peu de l'ordinaire, et puis ça a fait le reste. Ensuite c'est parti, ça a sauté directement à Oran, qui est la capitale de l'Ouest, la deuxième ville du pays, puis ensuite Alger, la Kabylie, et puis ça s'est étendu à tout le pays. Donc il y a des villes, je vous cite une ville, Khalata, qui est à 350 km d'Alger, où il n'y a plus rien. Les jeunes ont tout brûlé, le tribunal, les bureaux de poste, les banques, le centre des impôts. Il ne reste que le commissariat de police, parce que les policiers se sont retranchés à l'intérieur et tirés à chaque fois que les jeunes approchaient. C'est le cas pour la vallée de la Soumam. C'est en Kabylie, une longue vallée qui mène jusqu'à Bdjaïa en ville, sur la côte, où il y a des dizaines de petites villes entre 5 et 30 000 habitants. C'est pareil, il n'y a plus rien, ils ont tout brûlé. À Alger, c'est pareil, les dégâts sont énormes. Et pendant ce temps, alors les émeutes ont commencé lundi, et on est mardi de l'autre semaine. À aucun moment, ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, ni aucun ministre n'est venu à la télévision les appeler au calme, leur proposer des solutions, leur promettre qu'ils allaient s'en occuper. Ils se terrent dans des bunkers, dans des villas hyper sécurisées, et ils envoient la police gérer une crise politique majeure. Voilà, le seul ministre que les Algériens ont vu, c'est le ministre de l'Intérieur, qui est venu promettre répression, arrestation et et tout le reste.
Est-ce que la crise, enfin cette espèce de révolte spontanée, est-ce qu'elle a des débouchés peut-être plus idéologiques, plus politiques derrière, vous pensez, ou comment ça va se passer dans les prochains temps?
Ben, c'est ce qu'on espérait, sauf qu'on vient de lire ce matin une interview du ministre de l'Intérieur, c'est le seul qui parle depuis le début de la crise, tous les autres se cachent, et il le dit clairement, il répond à une question et il dit que ce n'est pas avec plus de démocratie ni avec plus de liberté qu'on réglera le problème. Donc voilà, il nous répond à nous. En disant ils veulent utiliser c'est ce qui se passe pour avoir un peu plus de démocratie et plus de liberté, ils ne l'auront pas. Pour nous, le problème n'est pas là. Est-ce donc pour l'instant, ils vont essayer de calmer, parce que là, le régime est très affaibli. Ils vont essayer de calmer parce que l'Algérie est riche, donc en essayant de distribuer un peu d'argent à la population d'une manière ou d'une autre, peut-être en augmentant les salaires ou en maîtrisant un peu plus les prix des produits de base, mais en aucune manière ils n'ouvriront le champ des libertés fondamentales, des libertés démocratiques, des libertés syndicales. C'est pas dans leur projet, en tout cas pas ce régime-là.
Est-ce qu'il y a une implication du mouvement syndical?
Il y a des mouvements, le mouvement syndical autonome, qui est évidemment par définition non agréé, qui essaye de temps en temps, mais c'est pareil, les leaders syndicaux sont harcelés en permanence, arrêtés, emprisonnés, menacés. C'est pareil pour les médias qui sont aux mains du gouvernement. Pareil pour le champ politique. On est sous état d'urgence depuis le 18 février 92, ça fait 20 ans. 21 ans bientôt que le pays est sous état d'urgence, toutes les réunions sont interdites. L'année 2010, à 3 ou 4 reprises, la Ligue des droits de l'homme a essayé d'organiser des petites conférences sur les droits de l'homme, évidemment c'est interdit. La moindre réunion est interdite sous prétexte qu'on est toujours sous état d'urgence. Donc il n'y a pas de canaux d'expression ni de revendication pacifique. Des moyens de dialogue, des moyens de faire comprendre au régime les revendications de la population. Le seul moyen qui leur reste, c'est la rue.
Oui, puisqu'on est sur les médias libres, comment vous, dans ce contexte, vous arrivez à fonctionner?
Nous, on est quasiment clandestins. La radio est interdite, le site est censuré. Donc à partir d'Algérie, le site de la radio n'est pas accessible, il est bloqué. Les journalistes sur place font attention. Comme c'est de la radio, il suffit d'un petit enregistreur numérique dans la poche pour pouvoir faire des petites choses. Mais ça aurait été une télé avec une caméra,
c'est impossible. Ouais. Ce serait impossible. Et pour revenir rapidement sur un peu sur la répression, on a eu ce matin votre confrère de Kalima Tunisie qui nous parlait au niveau de la répression des dizaines et des dizaines de morts qu'on ne pouvait pas les comptabiliser. Nous, ce qu'on a pu avoir comme information par rapport à la répression en Algérie, on parlait de 800 blessés plus ou moins graves et de 4 morts.
Oui, 5 morts.
5 morts.
Il y a eu au total 5 morts, 800 blessés. Parce que il faut le reconnaître qu'ils ont tout fait pour éviter un massacre, c'est-à-dire que les policiers avaient instruction de ne pas tirer, ce qui s'est à peu près passé. Donc il y a eu beaucoup de blessés parce que ils ont pas tiré sur la foule. Par contre, ils reculaient. C'est pour ça qu'il y a eu autant de dégâts. Pour éviter, pour éviter qu'il y ait un bain de sang, ils ont reculé, ils sont fermés dans des commissariats et dans des positions qu'ils pouvaient à peu près défendre, en laissant la rue aux jeunes qui, évidemment, il y a eu des dérapages et des saccages. Contrairement à ce qui se passe en Tunisie, où Ben Ali, finalement, a donné l'ordre de tirer sur la foule. Ça s'est pas passé. Les 4-5 morts, dont un, je connais à peu près l'histoire, c'est qu'à un moment, les policiers étaient vraiment débordés, et donc il y en a un qui a paniqué et qui a tiré. Mais ça aussi, c'était prévisible, parce que les policiers que nos journalistes ont pu approcher, des officiers, leur ont dit que ça faisait 3-4 jours qu'ils n'avaient pas dormi et qu'ils étaient seuls face aux jeunes, pendant que les autres, personne n'est venu parler à la population. Donc à un moment, eux-mêmes, si ça ne s'était pas arrêté, on allait vers un bain de sang, puisque à un moment, les forces de l'ordre, ce n'est pas leur boulot, c'est une crise politique, c'est aux politiques de la gérer. Et donc, c'est, je pense aussi, ce qui s'est passé en Tunisie. En Tunisie, Ben Ali, ça fait trois semaines que ça dure, et face au silence de la communauté internationale, il a dû se sentir les mains libres de faire ce qu'il... C'est évident. C'est évident qu'ils lui ont dit qu'ils préfèrent avoir... les Occidentaux, et d'une manière générale, les régimes, je ne confonds pas entre les régimes et les sociétés, ont cette envie d'avoir à traiter avec des régimes forcément impopulaires, qui ne représentent pas leur population, pour pouvoir soutirer ce qu'ils veulent. C'est ce que font les Américains avec au Moyen-Orient, où ils soutiennent des dictatures, alors qu'ils parlent de démocratie, mais ils soutiennent des dictatures, parce qu'ils ont besoin d'avoir en face des dirigeants affaiblis, à qui ils peuvent arracher et de l'argent et ce qu'ils veulent.
Mais sur qui ils peuvent avoir moyen de pression.
Pour le Maghreb, mais là, le rôle, il est plutôt français.
Et juste donc pour faire un point rapidement sur la situation actuelle du coup de l'Algérie, c'est un peu statu quo, tout le monde s'est un peu arrêté, mais par contre, il y a quand même à peu près 2000 prisonniers en attente de jugement qui sont en grève de la faim.
Pas les 2000. La grève de la faim, c'est dans une ville.
C'est dans une ville.
Il y a 2000 prisonniers en attente de jugement, mais ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les arrestations, tous les matins, ils sont en train de visionner les caméras, les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance, et puis les informations qu'ils ont sur les jeunes leaders du quartier qui ont poussé un peu les autres. Et ils sont en train de... C'est des arrestations massives, quoi.
D'accord.
Donc ça ne va pas s'arrêter. Et il y a une tension, évidemment. À tout moment, ça peut reprendre.
Tu parlais de la jeunesse. Est-ce que on peut dire que c'est simplement une manifestation d'une partie, grande partie de la jeunesse, ou il y a aussi d'autres membres de la population plus âgés qui sont présents aussi qui ont été présents dans ces manifestations?
Écoutez, présent physiquement, je ne sais pas. Moi-même, j'ai eu des familles au téléphone. Mmh. Habituellement, les familles essayent de retenir leurs enfants. Mmh. Et j'ai été surpris d'entendre des familles me dire « on n'en peut plus, on n'en peut plus, on les laisse ». C'est-à-dire qu'on sent presque que les familles poussaient les leurs. Parce que c'est pas aux femmes et aux pères de famille d'aller affronter les policiers, mais ils poussaient les leurs parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, ils ne comprennent pas comment ils vivent. La vie est très très difficile pour le citoyen algérien de base. Et donc ils n'ont pas retenu leurs enfants, ça c'est clair.